L'important, c'est d'avoir du courage, du culot et d'arriver à changer les choses. Pas le monde entier, bien sûr, mais celui qui m'entoure. Faut que je me jette dedans avec ma mention très bien, mon double cursus, mon enthousiasme, ma nouvelle machine à écrire Smith Corona et que je travaille comme une dingue pour faire un truc qui change la vie des gens, peut-être. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jour dans ce nouvel épisode d'Adapte-moi, si tu peux.
Docteur Lecteur, je m'appelle Clarisse Darry. Est-ce que je peux vous parler ?
Tu es un sorcier, Harry.
Je lui pardonnerais volontiers son orgueil s'il n'avait pas blessé le mien.
Vous avez toujours été le gardien.
C'est qui le con qui a écrit ça ? William Shakespeare.
Bonjour et bienvenue dans Adapte-moi si tu peux, le podcast qui compare des livres à leurs adaptations en film ou en série. Aujourd'hui, nous allons parler d'Un jour, un roman de David Nichols paru en 2009 et qui a été adapté au cinéma par Lon Scherfig en 2011. Pour parler de ce titre, je suis aujourd'hui avec Pascal.
Salut.
Et avec Manon.
Hello tout le monde.
Alors, comment est-ce que vous avez entendu parler d'Un jour ? Est-ce que c'était d'abord le roman ou d'abord le film ? Et je vais commencer par Pascal.
Moi, j'ai d'abord vu le film au moment de sa sortie, parce que j'ai toujours bien aimé les comédies romantiques, tout ça. Donc, j'avais été avec des copines pendant sa sortie au cinéma et j'avais pas lu le livre et je l'ai lu que à l'occasion de ce podcast.
Ok. Et toi, Manon ?
Moi, pareil, j'ai d'abord vu le film. C'était par contre pas au cinéma, c'était sur Netflix, il me semble, quand il était encore disponible sur la plateforme. Et en fait, j'adore Anne Hathaway, donc sans vraiment trop connaître l'histoire du film, je me suis dit que ça avait l'air chouette et j'ai regardé ça. Et toi, Victor ?
Alors moi, j'ai lu le livre en premier, en terminale, je crois. C'était ma mère, elle venait de le lire. C'est quand on était en vacances, genre d'été. Et elle me l'a passé et j'ai adoré, vraiment. Ça a été un gros coup de cœur. Et ensuite, j'ai vu le film. Et je l'avais pas revu depuis, mais je me souviens d'avoir été un petit peu déçue à l'époque du film. Et donc là, j'ai relu le livre et vu le film à l'occasion du podcast. Donc, parlons du livre. Un jour ou One Day en VO, c'est un roman écrit par l'auteur anglais David Nichols, paru en 2009. C'est son troisième roman, mais c'est le premier qui a été traduit en français. C'est celui qui a fait découvrir l'auteur en France. Et en fait, dans sa jeunesse, David Nichols, il a d'abord été acteur.
Ah, je savais pas.
Voilà, sous le nom de scène David Oldaway. Et en fait, il a été acteur pendant plusieurs années, mais en fait, il dit qu'il a vraiment eu beaucoup de difficultés dans ce domaine parce qu'il manquait, selon ses propres termes, à la fois de talent et de charisme.
Ça commence à faire beaucoup.
Problématique pour ce métier.
Exactement. Donc du coup, ensuite, à partir de 2000, il est devenu scénariste pour la télévision et il a signé notamment pour la BBC des adaptations de Beaucoup de bruit pour rien et de Tess de Urberville. Voilà, et en fait, c'est comme ça qu'il s'est fait un peu connaître. Il a aussi publié des romans, donc son premier roman, c'est Starter for Ten, qui est sorti en 2003. Le titre français, c'est Pourquoi pas. Il a été adapté aussi avec James McAvoy, ce roman.
Ah !
Voilà. Et en 2006, il a publié un deuxième roman, The Understudy, pour une fois en VF, mais c'est son troisième roman, Un jour, qui lui vaudra une reconnaissance critique, commerciale et internationale. Du coup, Pascal, est-ce que tu peux nous faire le résumé de Un jour ?
Oui, alors, 15 juillet 1988, Emma et Dexter viennent de fêter leur diplôme à l'université d'Édimbourg. Maintenant, la vraie vie commence. Pendant 20 ans, on suit chaque 15 juillet de la vie de ces deux personnages qui grandissent côte à côte. Ils vont s'aimer, se perdre, se séparer, pour peut-être enfin se retrouver.
C'est beau, très beau, très bon résumé. Oui, du coup, en fait, c'est un roman qui a une forme assez étonnante, en fait, parce que chaque chapitre, comme tu le dis, se passe un 15 juillet, mais d'une année différente, dans un ordre chronologique, du coup, de 1988 à 2008, sur 20 ans. Et pourquoi le 15 juillet ?
C'est la Sainte Swithin.
Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est une chanson de Billy Bragg qui est parue dans les années 80 et dont les paroles ont inspiré l'auteur lors de l'écriture de son roman parce que ça fait un moment... Les polaroïdes qui nous montrent ensemble vont sans doute disparaître, tout comme l'amour que sans cesse nous évoquions le jour de la Saint-Swithin. Mmh. Voilà. Et ce qui est d'ailleurs assez drôle, puisque comme on le verra ensuite, l'affiche du film était faite en polaroïde.
Ah oui.
Donc c'est un format assez original. Mmh. Je sais pas, moi j'avais jamais lu de roman qui avait cette forme-là.
Moi non plus. Après, c'est vrai que parfois il peut y avoir ces bonds dans le temps. Mmh. Et le fait que ce soit toujours à la même date, c'est assez chouette parce que ça donne une sorte de direction, de grille de lecture intéressante.
Oui, et ça donne pas mal de dynamisme parce que finalement, chaque fois c'est le 15 juillet, donc t'as un petit peu un update de ce qui s'est passé l'année précédente. Mais parfois, du coup, ce qui fait que d'un an sur l'autre, les situations elles ont changé assez drastiquement.
Dramatiquement,
il y a des
ouais.
ellipses, mais du coup, ça fait pas une structure trop lourde, parce que comme ils racontent leur vie sur 20 ans, ça pourrait être vite assez dense et assez ennuyeux, en fait.
Ouais,
là, voilà, on a juste effectivement des updates. On voit où ils en sont chaque 15 juillet pendant 20 ans de leur vie, et c'est assez
Et c'est assez
surprenant.
Facile à suivre, finalement. Ouais. C'est assez fluide, comme tu dis, vu qu'il y a des updates, en fait. Il y a pas, c'est par des épisodes du quotidien que finalement on arrive un peu à recoller les pièces du puzzle qui nous manquerait, et c'est assez bien fait pour le coup.
Mais c'est vrai qu'on se, enfin, à chaque chapitre, il y a ce petit suspense où on se dit,
qu'est-ce qui va leur
arriver? Emma parle et elle est, qu'est-ce qu'elle fait dans ce restaurant mexicain? Qu'est-ce qui s'est passé? Et au fur et à mesure, on comprend, mais c'est assez marrant de commencer chaque chapitre.
C'est ça. Et du coup, on suit deux personnages principaux, Dexter Mayhew et Emma Morley. Et en fait, quand ils se rencontrent dans le premier chapitre, du coup, c'est leur nuit juste après la remise de diplôme. Et au début, on comprend qu'ils sont un peu aux antipodes, un peu presque caricatural, genre elle plutôt un télo issu d'un milieu populaire et lui...
Le beau gosse.
Voilà, séduisant et superficiel.
Et riche.
Et riche, et oui. Et du coup, c'est assez intéressant parce que dès ce premier chapitre, je trouve, t'as un peu cette dynamique qui se crée entre eux où en fait, ils se sont jamais parlé, mais il y a un truc dans leurs échanges, la façon dont ils se taquinent ou quoi, qui fait que tu comprends.
Il y a clairement une bonne tension sexuelle entre les deux, quoi.
Bah, en fait, ils se sont pécho toute la nuit, concrètement, mais ils ont pas couché ensemble, ils ont pas mal discuté, ils se sont embrassés, et voilà, et tu comprends que c'est le début d'une longue et belle amitié. Voilà, qui va connaître ses évolutions. Du coup, au début du livre, ils vont chacun suivre un peu leur chemin. Genre, elle va essayer d'être actrice. Lui, il va partir en voyage un peu autour du monde.
Et elle essaie d'être actrice ?
Ouais, elle est comédienne au début. Elle est dans un théâtre un peu pourri, là.
Ah !
Mais je pense que déjà, elle veut se consacrer
plutôt
à l'écriture.
Ouais. Surtout l'écriture, ouais.
Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, ils vont avoir un peu chacun leur... leur propre parcours. Il y a un moment où ils se voient pas quand même pendant un certain temps.
Oui, et puis lui, c'est vrai qu'il fait un peu la caricature du fils de famille riche qui part faire le tour du monde, qui va en
voyager,
Inde, qui fait voilà, et qui se soucie pas de l'argent. Et elle est un peu en mode je galère, je vais à Londres tenter ma chance et dans un petit studio de merde. Enfin voilà, c'est.
Ouais, et puis elle finit serveuse dans un resto pourri mexicain.
Après un retour chez ses parents, enfin voilà, elle est un peu dans la galère alors que lui tout est plus facile pour lui, et c'est
mais du coup c'est quand même drôle parce que c'est des moments un petit peu où tu te sens un peu mal parce que lui genre il vit sa meilleure vie, il part en Italie, il se tape plein de meufs, etc., il se fait vraiment plaisir, et elle tu la vois galérer dans son resto de merde où elle est déjà blasée. En fait tu te rends compte qu'elle a déjà 25 ans, elle est déjà blasée, et à un moment elle dit non mais il faut que ma vie change et tout. Chapitre suivant, donc un an plus tard, elle est de nouveau dans ce resto.
C'est horrible,
c'est horrible.
Ils sont vraiment aux antipodes au niveau du mode de vie et même leur conception de la vie, leur éducation, etc. Enfin, ils sont vraiment différents, les deux personnages.
Ouais.
Mais ils sont toujours en lien, en fait, quoi qu'il arrive. Même s'ils se voient pas, ils s'écrivent. Enfin, bon, surtout elle lui écrit de longues lettres quand il est en voyage autour du monde.
Et lui, il envoie des vieilles cartes postales de merde avec deux phrases.
Oui, mais bon, ils gardent un lien et ils arrivent quand même à se voir, même si leur chemin prennent des virages différents. Mais bon, c'est...
Mais tu comprends qu'après, leur relation, elle est un peu déséquilibrée au départ. Tu comprends que c'est un peu elle qui est en attente et tout, qui fait vivre leur amitié, alors que lui, il est plus... Même après, rapidement, quand il va commencer à avoir sa carrière à la télé et tout, il va la voir seulement quand il a vraiment plus personne à voir, quoi.
Après, oui et non, parce qu'au tout début, quand ils commencent à chacun vivre leur vie professionnelle, leurs premières expériences pro, et que du coup, lui, il est à l'étranger, et que Emma, elle travaille dans sa compagnie théâtre, et puis ensuite dans le restaurant mexicain, à un moment, il y a quand même Dexter qui lui envoie une lettre. Enfin, qui écrit une lettre en lui disant qu'il veut absolument qu'elle le rejoigne en Inde, il lui donne rendez-vous devant le Taj Mahal, enfin vraiment tout un truc comme dans les films. Et en fait, il y a une anecdote et la lettre se perd et ne sera jamais reçue, mais c'était quand même un grand pas qui était fait dans la direction d'Emma, de la part de Dexter, alors qu'avant, en effet, comme vous l'avez dit, les filles, ils se contentaient de cartes postales très, très succinctes et très brèves. Mais pour autant, ça lui faisait plaisir, les lettres d'Emma.
On voit qu'elle est importante pour lui, même s'il ne le montre pas trop, et qu'il est un peu prétentieux, pédant, etc. C'est quelqu'un qui est très important pour lui. Et on le voit quand même dans plein de moments de sa vie où il est mal, où il est bourré, ou je ne sais quoi, son réflexe, c'est de l'appeler elle. Enfin, c'est quand même la personne sur laquelle il peut compter. Et...
on sait ce que ça veut dire.
Ouais, voilà. Et puis elle, enfin, elle est là pour lui, mais à un moment, elle en a un peu marre aussi, enfin, de cette relation...
qui va nulle part.
Qui va nulle part, et elle en a marre d'être une épaule pour pleurer, alors que...
ouais.
On ne sait pas, elle veut peut-être plus.
Mais il y a quand même des passages super drôles dans leurs échanges. Enfin, moi, il y a plein de phrases qui m'ont fait vraiment rigoler. Genre, à un moment, quand ils partent en vacances en Grèce, et elle lui avoue que quand ils étaient plus jeunes, elle lui écrivait des poèmes. Et il dit « Ah, j'aimerais bien les lire et tout. » Genre, il fait un peu son beau gosse. Et il fait « Mais qu'est-ce qui rime avec Dexter ?» Et elle lui répond « Connard, c'est une rime pauvre. » Et ça m'a vraiment fait rire. Ou à un moment, quand il dit « Ouais, je sors avec une meuf, elle trouve que je suis compliquée. » Et elle lui dit « Compliqué, t'es genre un puzzle pour enfants en deux gros morceaux. » Il y a ces passages, vraiment, moi, dans leur relation, qui m'a vraiment fait rire parce qu'ils ont vraiment... enfin, ils sont vraiment tous les deux plutôt drôles. Bon, lui, pas toujours... pas toujours, d'ailleurs, mais elle a toujours un sens de l'humour un peu sarcastique et tout, qui font que leurs échanges sont...
Oui, puis elle a beaucoup de réparties, c'est aussi un mécanisme de protection, ouais. Et c'est, du coup, ça fonctionne bien, en effet, dans leurs échanges, quoi. Il y a une sorte de dynamique qui se crée, très humoristique.
C'est ça. Et du coup, voilà, au fil des années, ils vont chacun emprunter des directions différentes, mais ce qui est cool, c'est de voir que, justement, ils vont se chercher, alors que normalement, c'est la remise de diplôme, tu sais, c'est le moment où t'es censé... arriver dans la vie active, savoir un peu ce que tu veux faire après tes études. Et en fait, ce qui est cool, c'est que non, tu te rends compte que bah, la vie de deux jeunes Anglais dans les années 90, bah, en fait, c'est des hauts et des bas, c'est pas tout tracé, ils vont chacun avoir
bah,
des...
Ouais, c'est vraiment un roman d'apprentissage, on pourrait dire.
Ouais, c'est vrai.
Dans le sens classique du terme, coming of age, les anglo-saxons disent.
Voilà.
Voilà, on les voit grandir littéralement pendant 20 ans et dans cette période de la vie où on est forcément un peu perdu, où on se construit. Je trouve qu'on peut quand même se reconnaître beaucoup dans plein d'aspects du roman et de leur trajectoire.
Vrai,
quoi.
C'est vrai que ça explore des thématiques qui sont encore aujourd'hui tout à fait actuelles. Enfin,
même
que ce soit dans
plus,
la dynamique de couple ou en effet dans le côté plus études, travail, mission de vie, etc.
Ouais, recherche de
toi-même. On retrouve totalement... totalement des points communs avec nos situations actuelles, quoi.
C'est ça, parce qu'à un moment, Emma, elle devient institutrice, du coup, elle se dit, c'est ça ma passion, c'est ça que je veux être, c'est ça, enfin, moi, ma mission sur Terre, c'est d'être prof, et puis finalement, à plus de 30 ans, elle va se dire, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ? Et c'est cool, c'est de voir que, bah, finalement, tu ne cesses jamais de te poser des questions, et c'est assez réaliste dans ce sens-là. Et ouais, par contre, Dexter, lui, il va vivre les années 90... à fond les ballons. Voilà, elle a un parcours assez classique finalement, où elle commence, elle vit en coloc et dans un resto pourri, et après elle devient institutrice, elle prend son propre appart. Emma, elle a un parcours assez un peu plus classique, on va dire, tandis que Dexter, il va devenir un présentateur télé, il va
célèbre.
Voilà, célèbre sort of enfin
célèbre dans le milieu de la télé, et puis enfin comme ils disent dans les années 90, la télé c'est hyper important
oui, avec tous les excès.
Ouais, voilà, il y a pas encore trop internet, Netflix et compagnie, donc la télé c'est un peu le média qui monte, et donc lui c'est le présentateur vedette d'une émission de musique pour jeunes. Donc voilà, avec tout ce qu'il va avec, il va dans des soirées, il prend de la drogue, voilà. Il sort avec des mannequins,
Oui, j'ai trouvé que d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était bien écrit les passages de Dexter, où à un moment il y a une scène où il est dans un club et tout, et il est complètement à l'ouest. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais la narration, comme t'es un peu dans les pensées de Dexter, ça fait vraiment les fils décousus. T'as l'impression d'être, de comprendre son état complètement drogué et tout. C'était plutôt bien fait dans ce sens-là. Et d'ailleurs, c'est son émission, c'est inspirée d'une vraie émission qui a vraiment existé en Angleterre des années 90, qui s'appelait The World with Mark Lamar. Et en fait, le journaliste Mark Lamar, il faisait aussi des interviews avec des stars du rap.
Ok.
David Nicholl s'est un peu inspiré de ça.
Le pauvre, le vrai présentateur dans la vraie vie.
C'est ça.
C'est vrai, ça donne pas une super image, mais bon, après...
Ouais, parce que c'est l'ascension, la gloire et la déchéance. Enfin, concrètement, lui, Dexter, c'est très...
Oui, pour le coup, c'était assez, en plus, quand même caricatural, je trouve aussi, ce côté de la réussite, la gloire, la fame, etc. Et puis la descente aux enfers par les drogues, notamment, la consommation d'alcool, mauvais rythme de vie. Et puis aussi, tout ce qui est les problèmes de concurrence et la course à l'audimat, à la performance, etc. Qu'au bout d'un moment, le mec, il passe les 30 ans et il est plus pertinent, en fait.
Ouais, il est has-been.
Il est has-been, exactement.
Mais en même temps, voilà, c'est des thèmes qui sont un peu caricaturaux, mais en même temps, c'est quand même contrebalancé avec des vraies scènes assez poignantes. Bah, par exemple, à un moment, il y a une scène avec la mère de Dexter, qui est quand même hyper triste, et Dexter, il est en roue libre. Et je trouve que l'auteur ne nous épargne pas dans cette scène-là, dans le sens où t'as vraiment des scènes qui sont très, très, très embarrassantes à lire. Genre vraiment, tu sais, t'es un peu mal à l'aise parce que soit ils sont en roue libre ou soit c'est vraiment très gênant.
Il décrit la vraie vie. Enfin, pour le coup, je trouve qu'il décrit vraiment sans filtre ce qu'on peut vivre et certains moments, comme tu dis, très gênants de la vie. Et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de moments qui sont très malaisants, y compris de son côté à elle.
Ouais.
Enfin, je veux dire, le passage, par exemple, où elle va dans une maison d'édition, parce que c'est horrible, elle veut se faire publier. Elle a écrit des choses et elle a une amie qui travaille dans une maison d'édition qui lui dit « J'ai réussi à t'avoir un rendez-vous avec ma boss, viens à tel endroit et tout. » Et donc là, elle monte dans la tour en verre, elle a rendez-vous avec la boss et en fait, il y avait eu un malentendu et la boss croyait que c'était un entretien pour sa babysitter. Et donc là, énorme malaise. Et c'est horrible, tu te sens tellement mal pour Emma.
C'est ça,
pour Emma,
parce qu'elle avait tellement d'espoir et qu'il...
Elle se dit « Ça y est, ma vie va enfin changer, ça va tourner. » Et là, bim, énorme coup dur et tu ressens ce malaise, enfin c'est... Bien décrit, quoi, mais c'est pas très, très agréable.
Ou même à un moment, quand elle est en couple avec un gars qui est une espèce de comédien raté.
C'est horrible, toute cette relation, là.
C'est atroce.
Yann.
T'as le premier rendez-vous où ils sont ensemble, et toi, tu lis le premier rendez-vous, tu te dis, ouais, mais non, ça peut pas matcher. Enfin, le gars, il est hyper gênant. Il l'emmène voir, genre, je sais pas, un film d'horreur, genre Evil Dead. Pour leur premier
date. En plus,
date.
C'était même pas le premier, c'est genre le deuxième ou le troisième.
Voilà, en plus.
Et puis, n'arrête pas de faire des blagues sur le menu aussi, par rapport à des jeux de mots qu'il fait, vu qu'il est comique.
Genre, il se croit en stand-up.
Il essaye
tout
de
le
faire
temps,
du stand-up, mais il est pas drôle. Et elle dit.
Elle le
il
recadre.
Est pas drôle, il est pas drôle.
À un moment, elle lui dit tais-toi, Yann. Et donc,
ça promet.
Et elle essaye de se convaincre qu'en fait, elle l'aime bien quand même et qu'il a ses qualités. Enfin, elle va quand même assez loin. Dans cette conviction, enfin
c'est ça.
Elle va quand même jusqu'à habiter avec lui, acheter un appartement.
Bah elle s'auto-convainc pour établir un peu cette situation de sécurité, de confort.
Ouais, de se dire c'est normal, j'ai 28-30 ans, c'est le moment où je suis censée me poser.
Peut-être que finalement je peux pas avoir de relation passionnelle, que finalement c'est un amour comme ça qui est bien aussi et qui est confortable pour me donner ce que je pense que la vie. Me réserve, quoi.
Et c'est ça, et à un moment, moi, il y a un passage voilà, qui m'a vraiment beaucoup touchée, parce qu'elle est dans cette relation depuis longtemps où toi, t'y croyais même pas. Enfin, tu te disais, après le premier date, no way qu'ils soient ensemble. Ce chapitre suivant, tu vois qu'ils vivent ensemble, tu te dis, oh mais non, c'est une blague.
C'est ça, un an plus tard, oh putain.
C'est ça, et là, à un moment, elle est en mode, je l'aime, mais je l'aime pas. En fait, je me rends compte que j'ai jamais été amoureuse de lui, je suis en train de construire une vie avec un homme que j'ai, en fait, j'ai jamais aimé.
Ouais, ce passage, il est super puissant.
Moi, ça m'a vraiment... Enfin, c'était un peu un effet coup de poing parce que tu te dis, mais oui, enfin, combien de gens, tu sais, par habitude, ils peuvent se construire un truc et en fait, ils se rendent compte que non.
Mais elle, c'est encore pire, c'est quand même dès le départ.
Oui, dès le départ.
Il n'y a jamais rien eu, quoi. Donc tu te dis, bon, c'est chaud.
Bah, le trouver sympa, mais.
Ouais.
Ouais, ça suffit pas. Mais ouais, il y a quand même pas mal de passages qui sont sympas. En plus, ils sont à Londres une partie du temps, mais après, à un moment, ils sont en vacances en Grèce. À un moment, elle est à Paris. Au Canal Saint-Martin.
Belleville.
Voilà. Parce que David Nicholls adore Paris, bien sûr, comme tous les Anglais.
Voilà.
Exactement.
Et là, ça fait. Bon, c'est quand même un passage un peu cliché, hein, où elle va écrire à Paris.
Voilà.
Dans une chambre de bonne, elle s'installe. Et...
Non, mais ce qui est cool, c'est que t'as toute cette évolution-là. T'as leurs 20 ans où ils sont en train en mode recherche professionnelle. Après, t'as ce passage où t'as tous les amis qui se marient tout le temps ou qui font des bébés.
Ça,
et eux, ils sont en mode bon, bah, moi, c'est toujours pas prévu. Qu'est-ce que je fais de ma vie, en fait? T'as tous ces côtés, ces doutes, ces questions, en fait, qui évoluent avec leur âge et qui sont vachement.
On voit un peu l'évolution des questions, des thématiques générationnelles au fur et à mesure du livre. Des questions qu'on peut nous aussi se poser dans nos vies actuelles. Enfin, voilà, nous, on a toutes 27 ans, je crois, oui.
Ouais.
Et du coup, voilà, on est aussi à des âges un peu charnières où on a eu nos premières expériences pro. On commence à avoir des amis qui peuvent se marier ou avoir des enfants, etc. Donc, c'est un peu pareil, mais... Une fois qu'on a toutes lu le livre, je me souviens, on a un peu déjà échangé avant de préparer le podcast, et on s'est dit c'est assez particulier parce que le livre, l'histoire est assez basique, assez simple, voire peut-être même un petit peu cliché avec la construction des personnages. Voilà, on me disait le riche beau gosse qui va voyager, machin, et la jeune fille un petit peu plus modeste qui va galérer, qui va faire de l'enseignement, etc. Et pour autant, c'est super bien écrit dans la retranscription des sentiments, en fait. C'est-à-dire qu'on voit à peu près la ligne directive du truc. Mais je trouve que c'est bien, les sentiments sont bien retranscrits, on peut vachement s'identifier au questionnement intérieur, au monologue intérieur des personnages, si bien que oui, bah, c'est un peu un roman romantique à l'eau de rose, mais pour autant, il y a quand même du bon
plus
à
profond,
en tirer.
Ouais. Ouais, moi je trouve, enfin, c'est bien sûr, il y a cette histoire d'amour en fil rouge, mais moi j'ai trouvé que vraiment, c'était plus, beaucoup plus qu'une simple comédie romantique ou qu'une romance, quoi. T'as quand même toute cette histoire. En même temps, en plus, t'as les années 90, les années 2000, donc t'as tout ce côté. Au début, elle milite pour la fin de la guerre en Yougoslavie.
T'as l'Angleterre sous trois décennies aussi. Il y a peu en filigrane l'évolution de la société derrière.
C'est ça.
C'est pas hyper important dans le roman, mais il y a quand même ça qui est présent. Et
c'est vrai qu'il y a une toile de fond avec toutes les problématiques sociétales.
Ouais, à un moment, il y a Dexter qui va à l'avant-première de Jurassic Park, où il y a Lady Di qui est là aussi. c'est marrant. Donc ouais, c'est un peu anecdotique. Mais ça aussi, il y a aussi le côté... comédie de mœurs dans l'Angleterre des années 90 et 2000, et ça fonctionne bien. Mais en fait, David Nicholls explique qu'il s'est pas mal inspiré en fait de sa propre vie. En fait, il a écrit un jour alors qu'il avait lui-même 40 ans, donc l'âge des personnages à la fin du roman. Et en fait, il dit, c'est une époque où du coup, t'as 40 ans et je suis repensé à ma vingtaine. Et en fait, il s'est énormément inspiré de sa propre vie, notamment pour Emma. Parce que il a dit moi j'ai pas eu trop une jeunesse comme celle de Dexter, mais je me suis vraiment identifiée à Emma dans le sens où voilà, où j'ai galéré et tout. Il dit moi non plus je conduis très mal, enfin il a aussi travaillé dans un resto pourri, mais lui c'était pas un resto mexicain, c'était un resto français, et voilà. Et en fait, il s'est beaucoup inspiré de ses propres expériences, et je crois que c'est pour ça que c'est un livre aussi aussi poignant par moments, parce que on sent vraiment les accents de vérité. Et on ne spoilera pas, mais pour moi la fin de ce roman, elle donne une toute autre couleur à tout le livre. Je sais pas, je me souviens de la première fois que j'ai lu le roman, je l'ai lu en mode « Ah, sympa, comédie romantique, machin ». Et à la fin, ça m'a vraiment fait voir le roman sous un angle complètement différent, en fait.
Oui, bah, de toute façon, on peut pas trop en dire pour pas spoiler, mais je suis d'accord que oui, ça ajoute une grille de lecture différente en rétrospective.
Voilà, c'est un roman sur... oui, sur l'amitié et l'amour, mais c'est aussi un roman sur les regrets, sur le temps qui passe, sur tes échecs aussi dans la vie, mais des échecs qui peuvent être vraiment horribles et que tu ne peux jamais réparer, comme la relation de Dexter avec sa mère ou ces choses-là.
Il n'y a pas de filtre, hein, c'est très réaliste.
Ouais. Voilà, et d'ailleurs, dans une interview dans le podcast britannique Best Sellers, David Nicholls a expliqué qu'un jour, ça correspond aussi à cette époque où il aimait bien baser son humour sur les situations embarrassantes, voire franchement gênantes, et qu'il s'en est pas mal inspiré pour un jour, parce que voilà, même à un moment, quand Emma, elle est presque en train de dire à Dexter qu'en fait, elle l'a toujours aimé, quand c'est en vacances en Grèce, et qu'il lui répond... Bon, de toute façon, moi j'aime un peu tout le monde.
Moi je saute sur tout ce qui bouge.
J'ai l'impression de sortir de prison tout le temps. Donc ouais, il y a tous ces passages un peu gênants, mais vraiment très drôles. C'est un livre vraiment un peu drôle, mais parfois très, très gênant, parce que très réaliste finalement. Du coup, est-ce que vous avez aimé ce roman?
Ouais, franchement, moi, bonne surprise, comme j'ai dit, je m'attendais à quelque chose de relativement niais. Et en plus, il est très long. Il fait quand même plus de 600 pages, 620 pages. Mais pour autant, je l'ai lu très rapidement et je trouve que ouais, voilà, on s'identifie aux thématiques et qu'on se laisse emporter facilement par l'écriture qui est pas mauvaise. Et vous ?
Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je m'attendais à quelque chose de plus niais. Et finalement, c'est plus profond que ça n'en a l'air, et je l'ai dévoré. Enfin, je l'ai lu très vite et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et toi, Victoire ?
Bah, moi aussi, j'avais vraiment adoré quand je l'avais lu au lycée, mais vraiment, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Mais aujourd'hui, je ne suis plus au lycée depuis 10 ans.
Le coup de vieux.
Le temps qui passe.
Voilà. Et donc, du coup, voilà, j'avais peur de trouver ça un peu gnangnang.
Tu entres dans le deuxième tiers du roman. Attention.
Attention. Voilà, que va-t-il m'arriver? Telle est la question. Mais voilà, donc finalement, je l'ai redécouvert aussi avec des yeux différents. Là, je l'ai lu en VO. Mais je pense qu'aussi le fait d'être plus vieille, etc., et du coup d'être passée peut-être par des étapes qu'ont pu vivre les personnages. Bon, toujours pas la drogue et l'alcool dans les clubs, sur les plateaux télé, mais c'est toujours pas mon...
Ah bon? C'est pas ton truc.
C'est toujours pas mon délire, mais voilà. Mais il y a vraiment des passages qui m'ont vraiment... que j'ai trouvé très très poignant en fait, qui m'ont vraiment, des questionnements qui m'ont vraiment touché en plein cœur. J'ai trouvé ça hyper profond et jusqu'au bout, enfin moi la fin, je m'en souvenais très bien, mais elle m'a vraiment mis les larmes aux yeux. Voilà, j'ai pas pleuré, ça a pas coulé, mais j'étais très émue quoi. Enfin, j'ai trouvé que c'était...
Moi, voilà. Je m'en souvenais pas, j'étais un peu choquée.
Voilà, moi c'est vraiment un roman qui, moi à l'époque, ça m'avait déjà beaucoup marqué et voilà, c'est... Je trouve que c'est un roman qui doit se lire, qui est plus profond qu'il ne le paraît. C'est pas seulement une comédie romantique, quoi. C'est plus que ça. Et du coup, je l'ai fait lire à Hugo.
Ouf.
Voilà.
Enfin, le crash test.
Non, mais en fait, quand je l'ai fini, je sais pas ce que... Enfin, on en avait déjà débriefé, je crois, Pascal, ensemble. Mais je trouve que la couverture du livre, elle le place quand même sur vraiment une romance un peu cucu.
Ah oui, je suis totalement d'accord.
Oui, et franchement, ça dessert totalement le livre.
Ouais.
Bon, en fait, on peut le dire, c'est la couverture du film. Enfin, c'est, ouais, la fiche du film.
Donc, et... c'est-à-dire un couple qui s'embrasse dans la rue.
Et il n'y a jamais eu d'autres éditions françaises.
Et en fait, voilà, oui, c'est vraiment, c'est dommage, en fait, d'avoir cette ouais. couverture qui, oui, qui place tout de suite ça pour lecture, pour petite meuf.
Ouais.
Franchement, c'est dommage. Et bon, il y a quand même, je trouve, pas mal de romans qui ont ce,
ouais,
ce défaut et la couverture qui dessert l'œuvre, donc
c'est ça,
c'est dommage. Donc voilà, on vous le dit, ne vous fiez pas toujours aux couvertures.
Non, parce que c'est
aller
plus
loin
que ça, quoi. Et donc du coup, je l'ai fait lire à Hugo parce que je lui ai dit, écoute, te fie pas à la couverture, je pense.
Tu peux être surpris. Ouais.
Je pense que vraiment, je lui ai dit, je pense qu'il y a des passages qui peuvent te toucher, parce que par exemple, même le personnage de Yann, qui est un peu pathétique par moments, mais en fait, il y a des moments où il est aussi... Moi, il m'a un peu émue. Genre, à un moment, il dit, mais en fait, si je suis pas comique, si je suis pas comédien, qu'est-ce qui me reste? Parce qu'il a littéralement basé toute sa vie en mode, je vais faire du stand-up, je vais être comédien.
Ouais, et c'est un peu les thématiques de la construction identitaire par rapport à sa profession.
C'est ça, et il dit, si je suis pas drôle, je ne suis... Enfin, qu'est-ce que je suis? Et moi, je sais pas, ça m'a vraiment... Enfin, ça m'a mis un coup aussi, et voilà. Et donc, je l'ai fait lire à Hugo, et il a aimé.
Mmh.
Voilà, bon, pas assez pour venir en parler au micro, mais.
mais du voilà. coup, comme quoi, nos auditeurs masculins, allez-y, hein, vous pouvez
exactement.
Vous risquer à cette lecture sans
en plus,
être.
Plus, voilà, il y a les deux points de vue aussi, hein, il y a le,
ouais.
le point de vue d'Emma et le point de vue de Dexter.
Ouais. Donc,
voilà. Et donc, du coup, Un jour a été un énorme succès à sa sortie. Au Royaume-Uni, il est parvenu aussi bien à séduire un lectorat féminin que masculin. Voilà. Ouais. Donc, la preuve que des hommes peuvent tout à fait s'attacher à ce roman. En 2010, il a été lauréat du prix Galaxy Book of the Year. Pas mal. Il a aussi reçu des critiques positives de l'auteur Nick Hornby, qui est un auteur britannique, voilà, qui a dit que c'était très prenant, très intelligent, que c'était fantastique. Et il y a même Télérama qui a fait une critique positive de ce roman.
Eh ben.
Waouh.
Voilà, donc ils ont dit « Contrairement aux apparences, Un jour n'est pas une bluette, mais une comédie de mœurs ironique et un tableau de la société anglaise sur 20 ans, avec illusions perdues et rêves brisés. »
C'est beau.
Mais c'est un peu ça, enfin voilà.
C'est un peu ça, oui.
Il y a ce côté, on n'en a pas trop parlé, mais plus loin dans leur vie, il y a aussi la question de la paternité, etc. C'est du mariage, des mariages ratés aussi. Donc voilà, je pense que c'est un très très bon roman et il a fait plutôt l'unanimité à sa sortie. David Nicholls, d'ailleurs, au moment de la parution du roman, il a annoncé qu'il était également en train d'écrire le script du film.
Le mec est au taquet, enfin, genre direct.
Bah, en fait, une des sociétés de production de l'adaptation, c'était Random Film House. Donc en fait, c'est la filiale de, je crois, Penguin. Enfin de...
Ah oui, d'accord, ok.
Et du coup, à mon avis, voilà, à mon avis,
c'est
à peine...
C'est vrai que le film est sorti quand même peu de temps après le...
Bah,
le
deux ans après.
Ouais, donc c'est super rapide.
Donc à mon avis, les droits avaient dû être vendus...
Ça avait dû être peut-être négocié en modalité dans le contrat, potentiellement.
Oui, parce que c'est lui qui a écrit le scénario.
Exactement, on va pouvoir d'ailleurs en reparler dans quelques instants. C'est ainsi que le film Un jour a vu le jour en août 2011 et nous vous passons la bande-annonce tout de suite.
Quand on était à l'université, j'étais dingue de toi.
J'étais amoureux de toi, Emma. Le problème, c'est que je craquais à peu près pour toutes les filles. Je me sentais tout le temps comme un mec qui sortirait juste de prison. Je pouvais pas me retenir.
Tu t'es incrusté à mon anniversaire, tu m'as appelé Julie et tu m'as renversé du vin sur mon chemisier.
Ah ouais.
C'est pas mon truc.
On peut peut-être être amis. Tout le monde est paumé à 25 ans.
Pas toi. T'es assistant producteur télé.
Je t'appelle parce que je voulais que tu saches que tu es la meilleure amie que j'ai jamais eue.
Dexter ? Dex ? C'était génial et en plus t'es un mec connu. Je t'aime Dexter, mais j'arrive plus à te supporter.
Un jour, c'est un film anglo-américain réalisé par Lon Scherfig, sorti au cinéma en août 2011. Fun fact, il devait sortir en juillet. Pour correspondre à la base à la date du...
De la Thanksgiving.
Exactement. Mais il y avait alors des gros blockbusters au ciné comme Spy Kids 4.
Ouais.
Mais moi j'adorais Spy Kids. Hein, donc,
est-ce que t'as vu le 4
Je suis pas sûre, j'avoue. Je savais même pas qu'il y en avait un, mais 1, 2, 3, je les avais en cassette. Et avec ma sœur, on était fans.
Le coup de vieux, la cassette.
La cassette, mais oui, mais... Bon.
Voilà, c'était le moment confession. J'adore Spy Kids.
On sentait que c'était important ce partage pour toi, Pascal. Merci.
Faut le remettre à sa juste valeur.
Et donc la réalisatrice, Lon Scherfig, elle est réalisatrice et scénariste danoise, plutôt reconnue parce qu'elle avait remporté plusieurs prix avec ses films précédents, Italian for Beginners et Wilbur. Et elle a également réalisé Une éducation. Le film scénarisé
Carré,
par...
Carrie Mulligan.
Voilà, exactement, avec Carrie Mulligan dans le rôle titre et scénarisé par, encore une fois, Nick Hornby. Oh. Toujours lui, voilà, et pour lequel elle a été nommée pour 3 Oscars. Et,
c'était un bon film, ouais.
Très très bon film. Et au scénario de Un jour, nous avons donc David Nichols, donc l'auteur du roman. Lui, ça lui paraissait plutôt naturel parce qu'il a été scénariste avant d'être romancier, finalement. Et surtout, comme on l'a dit, Un jour, c'est assez basé sur des passages de sa vie. Donc en fait, même si c'est pas autobiographique, il dit qu'il était vraiment très 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 attaché à ce roman en particulier et que ça lui tenait vraiment à cœur d'écrire lui-même le scénario, qu'il avait du mal à lâcher prise sur cette histoire en particulier. Et du coup, ça a été un peu compliqué parce que, comme on l'a dit, Un jour, c'est 20 ans, même si c'est à chaque fois un jour dans la vie d'Emma et Dexter, c'est quand même, ça se passe sur 20 ans et le film fait 100 minutes, donc 1h40. Et du coup, il dit qu'on ne pouvait pas consacrer à chaque chapitre 25 minutes. Donc avec le producteur, ils ont choisi 7 ou 8 scènes cruciales dans le roman pour se concentrer dessus. Et le reste est un peu plus survolé, on va le dire.
On peut le dire.
et voilà, il dit aussi une des difficultés de cette adaptation, ça a été de choisir les acteurs. Parce que du coup, il fallait qu'ils soient crédibles en étudiant. Mais il fallait aussi qu'ils soient crédibles en adulte, plus 35-40 ans. Voilà, donc... Donc voilà, et Anna Tawai a donc été castée pour jouer Emma.
Ce qui n'a pas plu à beaucoup de personnes d'ailleurs.
Bah, elle est américaine.
Oui, c'est assez... Oui. Ouais.
Bah, enfin... déjà, elle est américaine, donc du coup son accent a été beaucoup critiqué. Mais les fans du roman, en fait, ils ont reproché au fait qu'elle soit castée... le fait qu'elle soit pas assez geek et qu'elle soit trop glamour, en fait. Parce que dans le livre, c'est vrai que le personnage d'Emma est un peu décrit comme quelqu'un de geek, avec pas forcément beaucoup d'amis.
Elle est un peu gauche.
Un peu gauche, etc. Pas très jolie aussi.
Elle est mignonne, mais elle ne sait pas qu'elle est mignonne, quoi.
Oui, voilà.
Mais quand même, ouais.
Mais après, du coup, c'est vraiment l'effet film où à chaque fois, entre guillemets, fille qui n'est pas censée être jolie, en fait, c'est juste qu'ils lui ont fait un peu les cheveux crépus, rajouté une paire de lunettes et pas trop maquillée.
Comme dans Princesse
et
voilà. Magrielle.
Voilà, c'est tous les trucs de makeover.
Oui, mais honnêtement, même si j'aime bien Anna Tawai et que, en tant que, elle est pas trop mal physiquement et tout pour le rôle, moi je trouve, il y a quand même plein d'actrices anglaises qui auraient fait l'affaire.
Comme qui?
Je sais pas, genre Keira Knightley ou des trucs comme ça, quoi.
Ouais.
Bah. Franchement, c'est... Non, mais bon,
mais
c'est un exemple parmi d'autres.
Peut-être que, pareil, elle est trop sophistiquée pour faire Emma, peut-être.
Bah après, je pense que oui, en effet, il y avait potentiellement d'autres candidates. En fait, il n'y avait pas lieu... Moi, j'adore Anna Tawai, mais en effet, il n'y avait peut-être pas lieu de prendre une actrice américaine.
Sachant qu'elle
n'a pas de cohérence.
En fait, elle a été beaucoup critiquée pour l'accent anglais qu'elle prend. Bon, moi, je suis pas
qu'elle prend une phrase sur deux, d'ailleurs.
Moi, je suis pas une experte, mais bon, j'ai lu des critiques et tout, les Anglais qui disaient que, normalement, en plus, dans le livre, ils mettent l'accent pas mal sur le fait qu'elle a un accent du nord de l'Angleterre, du Yorkshire.
Très prononcé.
Très prononcé, qu'elle essaye de cacher. Donc, il y a un peu des jeux là-dessus.
En plus, il y a un peu un côté, finalement, aussi... Enfin, l'accent du nord de l'Angleterre, c'est un peu considéré comme les prolos, notamment à Londres.
Ah oui, côté voilà, classe sociale. C'est,
voilà, un peu comme... comme la nuit prodigieuse. Les gens du nord à...
Bon,
en France,
sachant qu'on vient toutes les trois du nord, donc ouais, ça
voilà. On vient toutes les trois du nord. Voilà,
nous, on a le droit de le dire.
Voilà.
On va dire, c'est l'équivalent des ch'tis.
Ne montez pas sur vos grands chevaux, chers auditeurs.
On est de Lille, donc on a le droit de dire ça.
Et on dit pas que c'est vrai, hein. On dit juste que c'est les clichés, quoi.
Mais elle a été, voilà, à la base, Lon Chirfig, d'ailleurs, ne cherchait pas d'actrice américaine pour Emma. Mais en fait, Anne Hathaway a reçu le script de manière clandestine. Donc on sait pas qui lui a donné ce script.
Ouh là là.
Et du coup, elle a eu un rendez-vous avec la réalisatrice à Londres. Elle a dit que ça a été le pire rendez-vous de sa vie. Genre que vraiment, elle a été... Elle dit, j'arrivais même pas à m'exprimer, c'était n'importe quoi ce que j'ai fait. Et en fait, après, en partant de Londres, elle était tellement mal qu'elle a donné à la réalisatrice une liste de chansons qui, pour elle, représentaient le personnage d'Emma. Et c'est comme ça qu'elle a eu le rôle.
Ouais, c'est assez incroyable, quoi. Comme histoire, ça paraît.
Et
ça
c'est,
paraît fou.
C'est Anne Hathaway qui a choisi qui ferait Dexter. C'est elle qui a choisi Jim Sturgess pour jouer Dexter Mayhew.
Okay. Bah ça va, elle se met bien.
Écoute... Elle avait un petit coup de cœur ou
Écoute, je n'ai pas plus d'explications.
En tout cas, elle avait
ça.
Bon goût. Hein. Enfin, elle a bon goût.
Ouais. Enfin, ça dépend des moments dans le film, mais ouais. Après, c'est pas la seule actrice américaine dans le film, puisqu'il y a aussi Patricia Clarkson qui joue
la mère de Dexter.
Voilà. C'est un petit rôle, mais voilà, elle est là. Et sinon, il y a qui dans le reste du film
Alors, c'est pas des gens que je connais trop, mais il y a Rafe Spall, il y a Ken Stott qui joue le père de Dexter, Romola Garay et Jodie Whittaker. Voilà, mais après, c'est d'autres... Enfin, c'est les personnages qui sont quand même moins importants.
Je l'ai reconnu dans Black Mirror, je crois.
Ah ouais?
Il joue aussi dans des épisodes de Black Mirror, ouais.
D'accord, ouais, je n'aime
pas. Mais bon,
c'est pas
des acteurs non plus très, très connus.
Non, c'est pas un cast.
De toute façon, on peut quand même dire que les acteurs secondaires, même les personnages en livre, sont très secondaires. Enfin, il y a quand même surtout.
Ah oui, il y a un énorme focus.
Dans le film et aussi dans le livre. Enfin, mais bon, surtout dans le film, mais il y a quand même que eux deux et les autres, c'est vraiment annexe.
Bah, dans le livre, t'as quand même pas mal de personnages secondaires. Oui. Enfin, t'as quand même pas mal de scènes déjà. Enfin, dans le livre, il y a plein de scènes où Emma et Dexter ne sont pas ensemble et ne se parlent pas. Où ils vivent chacun leur vie, ils rencontrent d'autres personnes. Tandis que dans le film, ils ont vraiment décidé de faire le focus sur eux deux, quoi. T'as presque pas de personnages secondaires finalement dans le film. Et une des. D'ailleurs. Principale contrainte qui était imposée par le livre, c'est le côté que ce soit toujours le 15 juillet, mais qu'à chaque fois ce soit une année différente. Donc du coup, il fallait faire en sorte qu'on croit toujours à l'écran que ce soit le 15 juillet, donc qu'on soit dans un perpétuel été. Et donc ça a été un peu compliqué parce que le tournage s'est étalé sur 8 semaines au cours de l'été 2010, mais donc du coup, il fallait toujours faire en sorte que t'aies l'impression d'être en mi-juillet.
Le même
quoi.
Jour, ouais.
Avec des looks différents, avec des fringues qui évoluent, avec des décors.
Voilà, les coiffures, les maquillages.
Ça, c'était quand même bien fait. Enfin, l'évolution dans le temps, je trouve qu'elle est bien retranscrite sur les personnages, sur leurs costumes, sur l'ambiance et tout. Je trouve que ça, c'était pas mal fait quand même.
Ouais, carrément. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment des gros points forts du film. C'est justement le côté sur le travail des costumières, en fait. Mm. Et aussi, bien sûr, des maquilleurs,
et des maquilleuses,
etc.
Je trouve franchement, Dexter... au début, donc quand il a 20 ans et à 40 ans, je trouve que c'est assez bien fait. Hein.
En fait, il
et alors, tu préfères à quel âge, Manon?
Moi, je prends les deux.
Non, mais ils portent tous les deux des perruques pendant tout le film.
Ah,
c'est
bon
jamais leurs vrais cheveux.
Ah, oh, trop bizarre.
Ouais, à part le moment où il y a une scène où ils se baignent dans une piscine. Là, c'est le moment où ce sont leurs vrais cheveux. Mais sinon, ils portent tout le temps des perruques.
À un moment... Dexter, quand même, quand il est au sommet de sa gloire, il a quand même une coiffure un peu dégueu. Enfin, gominée, fou, là.
Ouais, bah, années 90, quoi. Mais en tout cas, les professionnels qui ont travaillé sur les costumes, c'est Sarah Montfort et Odile Dix Miro. Et en fait, elles sont des costumières qui ont beaucoup travaillé sur des costumes d'époque. Par exemple, Sarah Montfort, elle a travaillé sur Marie-Antoinette de Sofia Coppola.
Pas mal.
Et Odile Dix Miro, elle a travaillé notamment sur les costumes de Une éducation qui se passe de souvenirs dans les années 60.
Oui.
Donc voilà, donc c'était quand même l'accent a été mis là-dessus et par contre là, on a quand même une certaine variété des lieux dans le film. Un peu moins, ils vont pas en Inde et ils vont pas en Grèce dans le film.
Bah, alors moi j'ai pas compris, c'est que dans le film, ils sont à fond sur la France.
Ouais.
Mais genre vraiment, et ça m'a... Déjà, normalement, Dexter va à Rome pour être prof d'anglais et ses parents le rejoignent là-bas, etc. Là, il va à Paris. Ensuite, ils sont censés aller en vacances en Grèce, ils vont à Dinard. Non mais bon... La Bretagne, c'est très cool, hein. Mais Dinard, la Grèce. On voit quand même la différence.
C'est
et j'étais
pas
en mode.
Le même délire.
C'est une question de budget.
Ouais, c'est une question de budget. Et là, je me suis dit, c'est quand même assez marrant. Et puis, pareil, après, t'as le passage à Paris. Enfin, à chaque fois, c'est tout le temps la France.
Ouais. Oui, bah, c'est
cool, hein. Mais c'est un peu la fascination. Rapport, ouais.
Le budget de la prod qui bah, a pas permis d'aller ni en Inde, ni.
Et puis, la France qui reste le pays un peu romantique et un peu machin.
Oui, voilà. Il y a aussi cet imaginaire qui est construit tout autour.
Mais voilà, un peu cliché. Enfin, franchement, quand elle est le passage dans le film où elle a son appartement. À Paris, mais non, mais ça, faut arrêter les gens dans le film. Non, mais... L'appartement d'artiste.
Avec la machine à écrire.
La machine à écrire à l'ancienne, les fleurs, l'espèce de baie vitrée. Oui, c'est une chambre de bonne. Non, c'est pas une chambre de bonne. C'est comme dans Emily in Paris.
Emily in Paris, exactement. Genre, la chambre de bonne qui fait 60-80 mètres carrés.
Canal Saint-Martin.
En fait, c'est un loft. Hein. C'est ce qu'on appelle un loft. Mais voilà, bon, bref, ça, c'est, ça m'a un peu horripilé parce que je me suis dit, il faut arrêter les clichés là.
Ouais, après, voilà. Non, en tout cas, c'était juste une question de budget, en fait, parce que le film n'avait que 15 millions de dollars de budget, et donc, du coup, ils ont dû se répartir dans trois villes, donc Londres, bien sûr, Édimbourg, puisque c'est là qu'il y a leur université, et Paris, voilà, et bien sûr Dinard, mais voilà, c'était quand même... ils ont réduit, on va dire, le périmètre, tout simplement pour une question d'argent. Et le film, par contre, moi, s'il y a un truc qui m'a choquée dès le début... Je pense que vous aussi, c'est la première scène du film qui choisit, pour une raison qu'on n'a pas trop compris, de commencer par la fin du livre. Enfin, sans aller jusqu'au bout, mais en fait, la première scène du film, c'est en 2006, et après, on remonte à 1988, et là, on suit l'ordre du livre. Et je trouve que c'est vraiment sans intérêt.
Bah, moi, justement, j'avais lu dans un interview de Lone Scherfig qu'elle expliquait. Quand elle avait lu le livre, elle avait été tellement retournée que c'était pour elle une façon d'atténuer un peu...
Bah oui, mais c'est pas ça qu'on veut, enfin...
Ah non, je dis pas que je suis d'accord, Pascal.
Exactement, c'est en mode...
le messager.
Non, mais on dirait, désolé du parallèle, mais on dirait le gouvernement qui lance des rumeurs sur le confinement 3 jours avant pour habituer les gens, pas que ce soit un choc. Bah là, c'est
tout
exactement pareil.
Toutes les techniques psychologiques de manipulation.
Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. C'est en mode, on vous fait un petit truc, là, voilà, et puis comme ça, vous êtes un peu prévenu, tu vois, bah... Non, enfin...
Bah non, ça casse
dans,
tout
dans
l'intérêt.
Dans le livre, moi... Ayant vu le film avant, mais je ne me souvenais pas, ça va vraiment. J'ai eu un moment de choc et c'était assez fort comme sentiment. Et je trouve que c'est ça qu'on veut, enfin, même dans un film.
Ouais, moi je suis d'accord. Moi, ce qui m'a vraiment dérangé dans le film, particulièrement au début, c'est que je trouve, comme tu l'as dit tout à l'heure, Victoire, le fait que ça s'étale sur 20 ans, il y a toujours ce jour, le 15 juillet, avec des morceaux comme ça de vie qui sont retranscrits, mais forcément dans le film, ils ne pouvaient pas tout montrer, donc du coup, c'est un peu...
20 ans en 2 heures.
Il se passe par là, il se passe par là, il se passe par là, enfin voilà, telle année, telle année, telle année, et je trouve que c'est très mécanique, que c'est très... surfait.
Bah ouais, c'est super bien agréable.
C'est pas du tout agréable en fait à regarder parce que déjà ça s'enchaîne très rapidement.
Mais
donc
oui,
en fait finalement il y a pas de contenu
et ça reste en surface.
Et ça reste en surface. Ouais. En fait c'est... tout le côté de l'écriture de David Nichols où on retrouve justement ces monologues intérieurs, ces interrogations sentimentales, cette fresque entre guillemets sociétale et tout, bah tout ça en fait on le perd dans le film parce que ils peuvent montrer qu'un certain nombre de choses et que en fait ils ont pas le temps de tout creuser.
Je suis tellement d'accord.
Ça perd vraiment en qualité.
Mais en fait il y a vraiment des scènes qui ne sont vraiment qui ne durent que quelques secondes en fait, des scènes qui sont censées représenter une année et du coup ça reste en surface et le début je trouve ça va beaucoup trop vite. T'as vite fait leur rencontre. D'ailleurs cette scène de rencontre elle est nulle. Elle est pourrie, la scène où ils sont censés passer la nuit ensemble après leur remise de diplôme. Enfin, normalement, ils passent littéralement la nuit ensemble, ils passent la nuit à discuter, à s'embrasser et tout. Là, c'est pourri, ça dure deux secondes.
On voit que le matin, je crois. Ouais.
Ça dure deux secondes, voilà. Elle croit qu'ils vont coucher ensemble et finalement, lui, il s'apprête à partir. Finalement, il reste quand même dormir. Et du coup, ils dorment. Et puis vraiment, après, elle est tout de suite en mode « On gardera le contact, hein, Dexter et tout. » Vous connaissez pas.
C'est ridicule. Il n'y a pas de logique en fait, ça fait pas sens.
Non, ça fait pas sens. Alors que autant tu vois dans le livre, même s'ils ont rien à voir ensemble, etc., tu comprends un peu avec cette première scène, je trouve, les bases de leur relation. Mmh. Et
toute la construction de leur complicité, en fait, qui fait que ça va se développer dans une belle amitié après.
Tandis que là, il n'y a aucune raison pour laquelle ils se reparlent après. Enfin, c'est un peu bizarre, c'est pas très bien fait.
Et puis, ils ont, du coup, comme ils ne pouvaient pas tout mettre, ok, mais ils ont basé tout le film sur leur histoire d'amitié frontière, amitié-amour, entre les deux, et franchement, le reste, ça passe à la trappe.
Ça passe à la
trappe. La construction identitaire, les questionnements professionnels, c'est vraiment secondaire, annexe. Ils ont juste focalisé sur l'histoire d'amour entre les deux. Et du coup, ça fait vraiment juste un film, une romance, quoi. Mmh. Et puis, qui n'est pas dans le livre.
Ouais, et du coup, les personnages se retrouvent beaucoup plus cantonnés à cet aspect cliché et caricatural. C'est vraiment deux archétypes et ça va pas chercher plus loin vu que, comme tu dis Pascal, on perd tous les questionnements intérieurs, professionnels, quête d'identité, etc. Et donc du coup,
on voit pas tous ces moments malaisants en fait. Il y a énormément de moments qui sont très gênants dans le livre dont on a parlé avant, qui sont pas du tout représentés dans le film. On voit pas parce que les deux, à des moments de leur vie, galèrent, mais vraiment galèrent.
Ouais, et où ça dure longtemps, et ça dure au moins un an, quoi.
Et ça dure longtemps, et il y a des scènes assez fortes. Enfin, il y a une scène où elle va au mariage de son ex-coloc, son amie d'université, elle prend la voiture, elle sait pas conduire, et elle dit « j'ai mis une vieille robe, je suis dégueulasse,
une robe
je suis
synthétique,
pas lavé les cheveux,
elle transpire.
Je transpire, j'arrive, je suis stressée et tout. »
Elle est trop belle.
Elle est juste en mode ultra, ultra belle gosse au mariage, et on voit pas cette galère qu'elle a avant. C'est un détail, mais en fait, pas tant que ça, quand tu vois l'évolution du personnage. Du coup, c'est dommage, en fait, ils ont quand même zappé tout un pan du livre.
Ouais, puis il y a plein de subtilités aussi, de petits épisodes comme ça qui ont été zappés. Le coup, ce dont je parlais tout à l'heure au début de l'épisode, avec la lettre que Dexter, Dexter écrit avec le rendez-vous au Taj Mahal, qui en fait finalement cette lettre, il l'oublie dans un livre pendant qu'il est dans un café, et c'est quelqu'un d'autre qui tombe dessus.
Mais oui.
Et en fait, je trouve que ça donne vraiment des pistes sur la dynamique qu'ils entretiennent dans cette amour-amitié ou amitié-amour. Et tout ça, ça se perd. Et dans le film, ça fait vraiment Emma qui poursuit Dexter jusqu'à ce qu'elle finalement abandonne et qu'elle fasse sa vie un peu par défaut avec Ian. Et enfin, du coup, il n'y a pas d'intérêt.
Ouais, et ils ont zappé des trucs ultra importants quand même. Par exemple, son passage à l'école.
Ouais.
Elle a quand même une liaison avec le directeur de l'école. C'est quand même une chose assez malsaine, très gênante, qui est dans le livre, on en parle pas mal. Et ça montre justement les problèmes qu'elle a avec Yann.
Les problèmes relationnels.
Les problèmes relationnels. Là, c'est complètement passé à la trappe. Alors, je sais pas si c'était parce qu'il fallait pas montrer des choses.
Il est pas là,
le
directeur.
Il y a toute une partie où on voit vraiment son travail à l'école. Elle fait une pièce de théâtre avec des élèves, elle fait des trucs comme ça. C'est pas montré, hein.
Non, tout est vraiment concentré sur leur vie, quoi. Par contre, du coup, t'as des scènes comme ça qui sont hyper rapides, où c'est hyper survolé. Et par contre, il y a des scènes où ils vont passer, hyper longtemps. La scène où ils sont à Dinard, justement, où c'est long, c'est super long pour pas grand chose. À un moment, il lui met de la crème solaire dans le dos. T'as vraiment un truc, ça dure plusieurs secondes, où elle est là, limite, à se mordre la lèvre, en mode... Après, lui, il la regarde partir, limite, en mode avec le regard du cul, et tu te dis, franchement, c'est pas très subtil, quand même.
Et c'est là qu'elle fait la roue.
Et là, elle fait la roue. il la regarde partir vers la mer, elle marche vers la mer, et d'un coup, elle fait la roue. Et tu te dis, est-ce que c'est pour montrer qu'elle est un petit peu...
mal à l'aise, mais
un peu awkward et tout.
Non, mais c'est, ils ont trouvé ça que ça comme moyen de vous faire enfin,
genre,
un peu chelou.
Anatole qui fait la roue, c'est pour montrer qu'elle est en mode pas très à l'aise. Enfin, ouais, moi, ça m'a vraiment dérangée. Et du coup, comme j'avais le DVD, j'ai regardé les scènes coupées.
Ah.
Et
t'es allée très loin, hein.
T'as vu, je me
t'as
suis
poussé l'analyse.
Ouais, je me suis donné... Mais non, parce qu'en fait, vraiment, moi, j'ai trouvé qu'il y avait trop de scènes qui manquaient. Et en fait, figurez-vous que la plupart des scènes coupées, elles servaient à rien non plus.
Bon bah,
moi il y a une scène que j'ai trouvée pas mal, c'est justement la scène où Dexter il va voir sa mère en voiture alors qu'il est en mode descente et tout, et normalement dans le livre ce passage c'est hyper gênant, il est complètement défoncé, il transpire, il s'endort dans sa vieille chambre d'ado et tout, enfin il s'engueule avec son père, bref, c'est un chapitre qui m'a aussi mise hyper mal à l'aise parce que c'est, enfin il est juste gênant et c'est horrible parce que sa mère est malade et tout. Et donc dans le film, t'as juste Jim Sturgess qui est un petit peu transpirant du front et tout, mais globalement ça va quand même.
Oui, il a trois gouttes sur le front, voilà. Il est totalement beau gosse.
Il a pas du tout l'air en mode déchet comme dans le livre.
Il est pas du tout en mode déchet, et du coup dans une des scènes coupées, c'est justement Dexter sur son passage en voiture, et en fait il manque d'avoir plusieurs accidents de voiture et tout. À un moment il s'arrête sur le bas-côté, et la scène tu vois un petit peu qu'il est...
Dans le film, son père lui dit « Tu prends le train, tu pars pas en voiture. »
Il lui dit « Comment oses-tu venir dans cet état ?» Alors t'as envie de dire « Mais quel état ?»
Oui, le mec est plutôt propre sur lui, ça passe.
Ouais, en fait, ils ont un peu atténué tous les trucs comme ça. Même en 2007, je crois, il est en boîte tout seul et il se met une mine horrible.
Mais
il se fait voler son portefeuille, il se fait tabasser, il arrive pas à rentrer chez lui. Enfin, c'est horrible. Et ça, on voit genre une seconde du truc.
Ouais. Ou à un moment, ils ont enlevé aussi dans le film la scène d'Emma à la maison d'édition, comme on l'a dit, ou encore le direct de Dexter, à un moment où il fait une scène en direct à la télé.
Du coup, il échange sa bouteille d'eau avec sa co-présentatrice et qu'il y a de la vodka dedans.
Et ça, c'est pareil, c'est hyper gênant. Et bref, ils ont enlevé tous les passages vraiment gênants, juste pour...
tous les passages qui permettent une compréhension plus accrue de la psyché des personnages et qui nous donnent justement cet accès au-delà de la romance.
Et puis le film, il a perdu son mordant, en fait, parce que, comme on le dit, il y a quand même beaucoup d'humour. Moi, il y a vraiment des passages qui m'ont fait rigoler dans le livre, etc. Là, j'ai trouvé que t'as plus ce côté un peu... t'as quelques échanges un petit peu sarcastiques entre les deux personnages.
Ouais, ça reste très...
Voilà, c'est vraiment hyper superficiel. C'est pas du tout aussi grinçant et aussi ironique que dans le roman. Là, c'est vraiment juste... T'as l'impression d'être devant une comédie romantique américaine,
et puis,
quoi.
Ça joue de plein de
clichés. Ça perd son côté de flegme britannique, en fait. Ouais. Je pense à qui a été clairement apporté par l'auteur.
Oui, c'est ça. C'était vraiment le côté humour british, humour un peu noir par moment, qui était hyper important et qui permettait d'avoir une histoire plus profonde et plus sympa. Et là, c'était juste pas le cas. Donc voilà. En plus, ils ont quand même fait 20 ans de film en 1h40. Est-ce que déjà de base, c'est pas...
Ça allait pas, dès
le départ.
J'essaie de me dire, est-ce que c'est un livre qui peut être adapté? Parce que c'est un exercice qui est compliqué. Est-ce qu'ils auraient pu faire un truc bien? J'arrive pas à trouver la réponse.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est une bonne adaptation?
C'est une question un peu compliquée, dans le sens où, en fait, ça a été adapté comme ça pouvait l'être, je pense. Mais la question de Pascal me fait penser que c'est peut-être pas un livre qui aurait dû être adapté. Et que peut-être il a été adapté parce que... ils ont vu un potentiel de romance et que le livre a bien fonctionné, donc c'était peut-être intéressant financièrement. Mais je pense qu'il y a trop de subtilité et trop de matière pour pouvoir le ramener en un film sans qu'il fasse 5 heures, quoi.
Oui, moi je suis d'accord, je pense que c'est pas spécialement une bonne adaptation, mais en même temps, est-ce que ce livre peut être bien adapté?
Parce qu'il est incroyable, complexe. C'est qu'il a été quand même littéralement adapté par l'auteur lui-même.
Oui.
Et pourtant, il y a quelque chose qui fonctionne pas, quoi.
Et puis voilà, on voit à l'écran, ils mettent les jours 15 juillet 1988, 15 juillet 1989. Ça apparaît comme ça pour montrer ça, mais on comprend même pas trop, en fait. Je trouve que moi, j'avais du coup lu le livre juste avant, donc ça allait, mais quand on le regarde comme ça, abruptement, on se dit, mais pourquoi ils font ça?
Il nous manque des infos. Ouais.
Et c'est moins important que dans le livre, t'as vraiment ce passage qui te...
Oui, ce côté rendez-vous,
parce que c'est ça.
Du coup, aussi,
dans le film, ça sert un peu à rien, en fait.
C'est ça, parce que dans le livre, il y a des moments où, justement, du coup, Emma et Dexter, comme c'est un peu l'anniversaire de leur rencontre et tout, ils vont pas se faire des dates, mais ils vont se faire un resto ou se faire une soirée un peu spéciale ou des trucs comme ça. Et là, c'est juste pas le cas, quoi. Après, moi, je pense qu'en fait... ça n'aurait pas dû être adapté en film, mais en mini-série. Si le livre sortait aujourd'hui, on ferait une mini-série en 10 épisodes.
Ça aurait plus de sens, effectivement. Je pense que ça peut pas être adapté en film de par la structure, mais du coup, la série aurait plus de sens.
Après, moi, j'y ai pensé justement à une mini-série, mais je me dis, il y a tellement de questionnements et de monologues qui sont intérieurs que je sais même pas si le fait de passer ça à l'écran, ça pourrait être... retranscrit d'une bonne façon.
Mais il y a quand même des passages concrets du livre, toutes les scènes un peu de malaise, etc., qui montrent aussi l'état d'esprit du personnage. Ouais. Et je pense que déjà rajouter ça, ça ferait un plus. Même si c'est vrai, on peut pas retranscrire tous les monologues intérieurs, mais toutes les choses, l'affaire avec le directeur de l'école, etc. Et plein de personnages secondaires qui pourraient prendre plus d'ampleur.
Plus d'importance, ouais. C'est là, autant... c'est une adaptation entre guillemets fidèle, dans le sens où même s'il y a des trucs coupés, il y a quand même beaucoup de passages qui sont littéralement des scènes copiées-collées du livre, même si voilà, mais parce que c'est aussi l'auteur qui a adapté sa propre œuvre, mais pour le coup, je pense que même si voilà, c'est assez fidèle et tout, que ça reprend finalement les mêmes éléments, etc., je trouve que c'est pas une bonne adaptation, parce que voilà, comme vous le dites, ça enlève tous les questionnements, ça se concentre uniquement sur la romance, et en fait, David Nichols, il explique, c'est que, bah oui, quand t'écris un roman, tu peux faire un peu tous les genres que tu veux, tu peux mettre tous les questionnements que tu veux, etc., mais quand tu fais un film, bah déjà, t'es obligé de définir le genre. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un thriller ? Est-ce que c'est une comédie romantique ? Est-ce tout ça ?
Oui, mais il y a des comédies romantiques de plus ou moins de bonne qualité.
Oui, bah là c'est la pas très bonne qualité.
Voilà.
Enfin, honnêtement, moi, j'ai ressenti aucune émotion dans le film.
Ça perd toute l'âme de l'histoire, en fait.
C'est ça. Et à la fin, ils font une fin un peu choc, un peu violente. Mm. Mais c'est juste, c'est presque clownesque, tellement c'est too much. Enfin,
oui.
Et ça... Voilà.
Ça colle pas.
Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et autant les acteurs, voilà, ils ont bien été grimés. Anne Hathaway n'est certes pas anglaise, mais elle est quand même assez rayonnante. Moi, je trouve que c'est l'élément le plus attachant du film. C'est quand même Anne Hathaway.
Après, et je trouve par contre qu'entre les deux acteurs, il n'y a pas une grande alchimie non plus.
Non.
Ils sont pas. Il n'y a pas d'étincelle, quoi. C'est dommage.
Non. Ouais.
Alors, ce qui est étonnant, vu
elle a beau l'avoir choisi.
Ouais, voilà, qui l'a choisi. Mais c'est vrai qu'en effet, il manque ce petit truc, justement. Encore une fois, ça manque d'âme.
Ouais, non, c'est triste. En fait, c'est vraiment des scènes qui ont été sorties du livre, mais qui finalement mises ensemble ne fonctionnent.
Ça devient hors contexte, quoi. Ouais. Il manque vraiment cette trame de fond qui permet de tout unifier.
Et voilà.
On n'est pas convaincu, quoi. En gros.
Non, non, vraiment. Et le pire, enfin moi, ce que je trouve encore pire, bon bah déjà le film a quand même donné son affiche à la couverture du livre, ce qui est nul. Mais en plus, je pense vraiment que si on voit le film d'abord, je suis pas sûre qu'on ait envie de lire le roman après, en fait.
Ah oui, non, clairement.
Donc, on vous conseille de lire le roman avant.
Ouais, mais.
Et en fait,
voire de ne pas regarder le film.
Regardez peut-être même pas le film.
Ouais, parce que le film ne vous apportera vraiment rien, même pas un regard différent. C'est juste des images. La photographie est belle, t'as des passages où, voilà, c'est assez joli, tu peux faire des captures d'écran et tout. Mais c'est
en fait,
vraiment...
c'est une extraction texto des scènes du livre sans aucun apport.
C'est un peu un film. Un film à Tumblr, tu sais, après tu fais des petites images avec des citations.
Un mood board,
voilà,
Pinterest.
Exactement, un mood board Pinterest, parce que j'étais restée dans les années 2000, du coup, de Tumblr. Voilà, les vieux comprendront. Mais non, moi j'ai trouvé que le film était vraiment sans intérêt, sans âme et sans émotion. Donc, c'est un peu...
Au moins, c'est clair, donc on va pas vous dire si on a préféré le livre ou le film, hein, parce que je pense que là,
compris.
C'est bon.
Non, mais voilà, donc je pense que... Bah, c'est plutôt clair, on a tout préféré le livre, lisez le livre. Et le film, d'ailleurs, du coup, comme on l'a dit, il avait un budget de 15 millions de dollars, il en a rapporté 56, ce qui n'est pas non plus le gros carton du siècle, hein, c'est un côté presque film indépendant. Il est noté pourri sur Rotten Tomatoes avec une note de 36%, ce qui est assez dégueulasse.
Ouais, c'est pas la folie.
Et les gens, ils disent que justement, même si il y a un côté un peu nouveau dans la narration et dans la façon dont c'est raconté, ça n'a ni émotion, ni profondeur, et ça ne retranscrit tout simplement pas le roman dont il est tiré, donc...
Au moins, c'est clair.
Au moins, c'est clair, c'est le consensus. Et Betsy Sharkey, qui est journaliste au Los Angeles Times, a dit que c'était tellement décevant que ça lui a brisé le cœur.
Oula.
Comme film.
Je sais pas si j'irai jusque-là non plus, mais...
Franchement, par rapport au roman, c'est vrai que le roman est tellement bien que là, vraiment, le film est juste...
Voilà. Sans intérêt.
Sans intérêt, next. Voilà, bon après, rappelons-le, on n'aime pas trop les... Enfin, on n'est pas très romance ici. Hein.
Moi, j'aime bien les comédies romantiques, hein, en film,
ouais,
plus
moi,
qu'en
c'est
livre.
Pas trop mon délire.
Mais du coup, bon, voilà, j'aime bien quand c'est de qualité, quoi.
Mais moi, en roman, je lis jamais de romance,
par
exemple.
Non, par contre, en roman, je lis jamais de romance. Et, donc... et du coup, mais bon, là, c'est plus que ça, donc c'est,
voilà,
c'est bien.
Ouais, ça apporte tellement beaucoup plus que le roman, c'est juste pas seulement une romance, contrairement au film qui n'a pas grand-chose de plus. Voilà, donc c'était notre avis sur Un jour. Passons maintenant à nos recommandations. Est-ce que vous en avez autour, je sais pas, de David Nichols, Anne Hathaway, Lon Chaney, ou encore les histoires d'amour contrariées, Manon?
Du coup, moi, c'est des recommandations que je me fais à moi-même. C'est deux livres de David Nichols, parce que en fait, j'ai été assez surprise de son style et de Un jour en le lisant. Du coup, je me dis que ce serait pas mal de lire justement d'autres livres de lui. Donc, il y a notamment Us ou Nous, qui a été paru en 2015 et qui se passe à Londres encore et dans plusieurs grandes villes d'Europe également. Et c'est l'histoire d'un biochimiste de 54 ans, Douglas Peterson, qui voyait sa vie toute tracée. Encore quelques années dans son labo, suivie d'une paisible retraite auprès de sa femme, artiste, Connie, dans leur maison londonienne. Et en fait, le jour où Connie lui apprend brusquement qu'elle n'est plus certaine de l'aimer, l'esprit scientifique de Douglas est soudain démuni. Comment colmater une fuite d'amour ? Donc ça, ça a l'air pas mal. Et sinon, il y en a un qui est sorti là, il y a quelques mois, qui s'appelle Summer Melody, qui est sorti en 2020. Je vous fais un bref résumé, c'est « On n'oublie jamais son premier amour ». Dans la veine du magnifique « Un jour », David Nicholls signe son grand retour avec un délicieux roman d'apprentissage, de passion, d'amitié et de nostalgie sur fond de Britpop 90s. Donc du coup, pareil, je pense qu'on peut y retrouver cette idée de fresque générationnelle, des thématiques assez sociétales, ça peut être intéressant. Et puis sinon, bien sûr, en film, ça m'a fait penser à The Notebook, un petit peu dans le côté histoire d'amour, même si, bon, c'est un peu différent, mais vous pouvez aller écouter notre épisode.
Oui. Et toi, Pascal?
Moi, du coup, c'est une recommandation que Manon avait aussi, donc elle me laisse en parler. Alors c'est une comédie romantique mais de qualité. Moi c'est
je plus soi,
voilà, moi c'est franchement un film que j'adore, c'est 500 jours ensemble.
Oui.
Donc 500 days of summer en anglais avec Zoé Deschanel et Joseph Gordon-Levitt. Qui est une comédie romantique mais intéressante parce qu'elle est du point de vue du mec qui, on le sait, s'est fait plaquer par sa meuf, et revient sur leurs 500 jours ensemble. Donc il y a aussi ce côté avec les dates,
ouais.
Puisqu'il va à l'écran, on va voir, pas forcément dans l'ordre, c'est ça qui est aussi intéressant, mais il va dire, voilà, jour 490, jour 3, jour 1, enfin, et du coup, c'est vraiment un film, enfin, moi, que j'aime beaucoup, que je trouve original, et qui est une histoire d'amour, mais pas
du cul-cul,
et pas niaise, et pas cliché, voilà.
Ouais.
Donc plus dans la veine du livre, hein. Vous l'avez compris.
je suis plutôt d'accord.
Et toi, Victoire, quels sont tes recos ?
Alors, moi, j'en ai deux. Enfin, une sur laquelle je vais passer un peu rapidement. Donc, c'est Une éducation de Lon Scherfig, qui est un film que j'ai vu il y a plusieurs années, mais c'est pas mal du tout. C'est donc Carey Mulligan, qui est adolescente, lycéenne, qui a un peu une vie toute tracée par des parents un peu... voilà, qui veulent qu'elle apprenne le violoncelle, je crois qu'elle joue... qui veulent la faire aller dans une grande école, genre Oxford ou je sais pas quoi. Et en fait, elle va rencontrer un homme plus âgé qui va un peu la détourner du droit chemin. Mmh. Et voilà, du coup, elle va devoir faire un petit peu ses propres choix dans la vie et voir, et en assumer les conséquences. Donc ça, c'est pas mal. Et ma deuxième reco, c'est une histoire d'amour aussi un peu contrariée avec des rendez-vous. C'est une relation on and off. C'est Normal People de Sally Rooney.
Oui,
oui, qui a été adapté en mini-série en 2020. Et
bientôt un podcast à ce sujet, peut-être.
Peut-être, parce que voilà, c'est un roman que j'ai vraiment adoré, où c'est pareil, on va suivre deux adolescents, donc Marianne et Connell. Donc elle vient d'une famille plutôt riche, lui il est élevé par sa mère célibataire qui est plutôt pauvre dans une ville d'Irlande. Et donc au début ils sont au lycée, lui il est très populaire alors qu'elle elle est plutôt une nobody, hein, comme on dirait, voilà, elle est un peu en retrait, et puis ensuite on va les suivre à l'université, à Trinity, à Dublin, et puis voilà, on va suivre un petit peu leur cheminement, mais on est plutôt sur la période du lycée jusqu'à la fin de leurs études. Voilà, donc c'est pas exactement la même timeline qu'un jour, mais il y a aussi ce côté, sur ces questionnements, sur l'Irlande des années 2010, sur qui es-tu, comment tu construis ta personnalité, comment tu construis tes relations aux autres, à ta famille, à tes amis, à tes potentiels copains, copines, etc. Donc voilà, c'est un livre qui m'a aussi beaucoup touchée, parce qu'il est très authentique, les personnages sont très très attachants, et la série est... trop bien. Si la BBC écoute ce podcast, s'il vous plaît, faites la même chose avec Un Jour. Enfin, c'est de ça qu'on a besoin, quoi, d'une petite série en 12 épisodes, voilà.
Et le livre sort en France, en français, en mars. Ne l'oublions pas.
De Normal People, voilà, le 4 mars, aux éditions de l'Olivier. C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous deux d'être venus parler de Un Jour.
Merci.
Vous êtes tapé le film. Au moins que c'était qu'une heure
40. 1h40 qu'on ne récupérera jamais.
Par contre, les 620 pages, tout le monde peut y aller. Hein. Allez-y, c'est trop bien. Et merci surtout à vous de nous avoir écoutés jusque-là. Vous pouvez retrouver Adapte-moi si tu peux sur Facebook, Twitter et Instagram. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, on vous dit à bientôt. Salut.
Salut.